Alors, nous allons faire un tour de table dans le sens des aiguilles d'une montre. Colette Downing, politique et des droits d'auteur, Industrie Canada. Richard Branzing, président de l'industrie du film de Colombie-Britannique. Paul Whitney, ville de la bibliothèque de Vancouver. Je représente le conseil des bibliothèques urbaines. Madame Harrigan, distributeur de vidéos, producteur de vidéos. Mira Sundararajan, Université de Colombie-Britannique, études sur les droits d'auteur. Richard Rosenberg, président de l'Association de l'accès à l'information de la Colombie-Britannique, et je fais partie de l'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique. Nena Mitter, présidente de l'Association des bibliothèques ou du comité des droits d'auteur de l'Association des bibliothèques de la Colombie-Britannique. Elizabeth Rains, présidente de l'Association de Colombie-Britannique des éditeurs de revues. Mary Hendrickson, direction des arts et de la culture de la Colombie-Britannique. Tanya Pitt. Madame Addington, directeur de politique. Lisa Codd, vice-présidente de l'Association des musées de la Colombie-Britannique. Charles Laser, conseil national de la Guilde des écrivains, des auteurs du Canada. Nous représentons 2000 écrivains professionnels dans le domaine du film, de la radio et des médias numériques. Bill Henderson, Association des paroliers du Canada. Bonjour, Margot Patterson, conseil général de l'Association des radiodiffuseurs canadiens. Stephen Ellis, je suis un producteur de Toronto, Ellis Entertainment, une compagnie de vieille de 45 ans. Je représente également le comité des droits d'auteur de la CFTPA, dont je suis ancien directeur. Jeff Glass, direction de la liberté en matière de droits d'auteur de la Colombie-Britannique. Je travaille auprès de plusieurs associations qui s'occupent des droits d'auteur. J'étudie au doctorat dans des domaines connexes et je suis élaborateur de logiciels. Ian Boyko, Fédération canadienne des étudiants. Barbara Motney, politique en matière de droits d'auteur, Patrimoine Canada. Et je vous signale que l'anglais sur le canal 1, le français sur le canal 2, comme le ministre l'a dit, cette session sera enregistrée. Donc, si vous voulez bien vous identifier lorsque vous prendrez la parole et nous dire qui vous représentez, ce qui facilitera l'écoute. Merci beaucoup. Je suis Tony Clement, ministre de l'Industrie pour le Canada. Et je vous souhaite la bienvenue. C'est un honneur pour moi d'être ici avec James Moore, mon collègue, pour le tout début de ce processus de consultation. D'ici 2 mois, nous allons nous promener un peu partout au Canada. Nous allons entendre des groupes semblables au vôtre ou peut-être différents du vôtre, tout dépendant de la participation et des endroits où nous irons. Peut-être des gens auront-ils des opinions différentes ou divergentes, parce que les opinions sont toujours très teintées de passion et je suis convaincue qu'il en sera ainsi aujourd'hui. Je pense que c'est sans doute de bon augure, mais nous entreprenons ceci le jour où, pour la première fois, un être humain a mis le pied sur la Lune. Donc, dans ce contexte d'innovation et de création, peut-être pouvons-nous entreprendre notre travail ici aujourd'hui. Le but de la consultation est d'aider le gouvernement à traiter de la modernisation de nos lois en matière de droits d'auteur. Il y a eu déjà des essais de faux départs pour des raisons qui ont échappé au contrôle des gens, mais malheureusement, nous n'avons pas encore réussi à mettre à jour et à actualiser, moderniser nos lois en matière de droits d'auteur. Nous sommes dans le 21e siècle et je pense que c'est devenu un besoin urgent, parce que cela peut avoir des répercussions sur les individus en tant que consommateurs, les artistes, ceux qui aident les artistes, ceux qui les produisent. Et à titre de personnes qui se préoccupent de la façon dont le Canada s'inscrit dans l'industrie du savoir de demain, eh bien, je pense que ces lois ont une importance et doivent refléter les intérêts et les besoins du Canada. Donc, nous allons entreprendre des consultations un peu partout, d'un océan à l'autre, et nous allons entendre de nombreuses opinions, ce qui est très bien. Nous tenons à avoir ce dialogue, nous voulons faire évoluer la situation, et nous espérons qu'à l'automne, si tout se déroule comme nous l'entendons, nous allons pouvoir utiliser ce dialogue pour préparer un rapport que nous soumettrons à nos collègues du Conseil des ministres, ce qui devrait mener à la présentation d'un projet de loi au Parlement. Mais je ne veux pas présumer des résultats de la discussion. Nous tenons à vous entendre. Nous allons prendre vos opinions au sérieux. Et là-dessus, je vais céder la parole à mon collègue James. Vous pouvez nous communiquer avec copyrightconsultation.ca de façon à ce que les gens puissent nous faire parvenir leurs mémoires, leurs opinions électroniquement. Ceci se trouve sur notre site web. Quand nous sommes en politique, on essaie toujours d'en arriver à un consensus, mais je pense que nous sommes ouverts à entendre toutes les opinions émises. Donc, les droits d'auteur sont importants pour les créateurs, les distributeurs, les consommateurs. Et c'est sûr que le projet de loi C-61 l'année dernière a suscité beaucoup de réactions. Cela portait sur les médias en ligne. Un commentaire que nous avons souvent entendu, c'est que les Canadiens moyens n'avaient pas l'occasion de contribuer au dialogue sur ces questions. Voilà pourquoi nous avons organisé ces consultations partout au Canada qui seront ouvertes aux individus et aux organisations qui s'intéressent à la question. Donc, le processus prévoit des discussions à table ronde, des réunions publiques. Nous voulons que tous les Canadiens et Canadiennes aient l'occasion de se faire entendre. Nous avons un temps limité à consacrer à cette rencontre aujourd'hui. Mais vous pourrez, encore une fois, continuer de participer à la discussion par voie électronique. Donc, voilà, le moment est venu d'entendre vos commentaires. Les consultations se poursuivront pendant l'été. À l'automne, nous allons entreprendre le travail sur la préparation d'un projet de loi. Eh bien, n'oubliez pas que c'est une réunion à huis clos, mais il y a un enregistrement qui sera ensuite disponible sur Internet. Nous avons à peu près 90 minutes, donc je vais vous demander d'être bref et d'être le plus pertinent possible dans le temps qui vous sera consacré. Et ensuite, comme je le disais, nous accueillerons avec plaisir tous vos commentaires écrits à la suite de cette réunion. Monsieur le représentant de l'industrie du film de Colombie-Britannique, Monsieur le ministre, je pense que je vais passer mon tour parce que moi, je ne peux pas garantir d'être bref. Eh bien, l'industrie du film est dans une situation intéressante. Nous sommes des créateurs et nous sommes les utilisateurs de droits d'auteur parce que nous recevons parfois du matériel d'autres personnes, mais nous créons des œuvres qui sont soumises aux droits d'auteur. Donc, il faut qu'il y ait des droits qui s'appliquent aux créateurs et aux consommateurs. Nous voulons qu'il y ait un juste équilibre entre les deux. Les distributeurs veulent pouvoir utiliser du matériel à long terme, mais ils veulent avoir un bon accès. Donc, c'est un principe d'équilibre entre les droits des uns et les droits des autres. Nous devons avoir une vision de l'avenir, une vision à plus long terme. Nous comprenons très bien les défis que vous et que les gouvernements précédents ont eu à vouloir moderniser les lois sur les droits d'auteur. Donc, une loi qui soit visionnaire, c'est très important. Une loi qui, tant que faire se peut, soit neutre, objective du point de vue de la technologie. Puisque nous parlons de plateformes de distribution qui changent à une vitesse folle. Donc, il faudrait que la loi s'applique à toutes les technologies. Vous ne devez jamais perdre de vue que vous essayez d'atteindre un état d'équilibre. Vous devez reconnaître que la loi doit être un outil qui permette au Canada d'être concurrentiel à long terme. Donc, voilà. Une loi visionnaire et qui est une portée à long terme. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment bref. Paul Whitney, je représente le Conseil des bibliothèques urbaines. Je vais réitérer ce que Richard a dit. Messieurs les ministres, nous vous remercions d'avoir entrepris ce processus de consultation. Nous pensons que c'est important de faire le bilan de là où nous sommes. Il y a déjà une transformation du point de vue de l'accès au contenu, la façon dont la création artistique se fait, ainsi que les modèles d'affaires. Donc, je pense que cette nouvelle loi ne peut être que utile. Dans les bibliothèques, nous offrons des millions d'outils, de matériel aux Canadiens. Nous achetons 57 millions de dollars de livres chaque année, 7 millions de dollars de périodiques, 14 millions de dollars de documentation audiovisuelle et nous dépensons 18 millions de dollars en matériel électronique, numérique. Évidemment, nous avons eu des réactions, des préoccupations au sujet du projet de loi C-61. Nous avons donc voulu travailler avec le gouvernement de façon à nous assurer que ce nouveau projet de loi répondra à nos inquiétudes. Nous croyons que circonvenir la loi sur la propriété numérique est essentiel. Si on impose certains contrats, cela ne doit pas nuire aux droits des citoyens d'après la loi. Nous voulons protéger le domaine public. Ici, il y a des photos historiques, des milliers de photos historiques sur la Colombie-Britannique. La façon dont les photos sont traitées est une question très importante pour nous. Le Canada est orienté à certains objectifs et à une politique axée sur les objectifs en matière de protection des droits d'auteur. Mais je pense qu'il y a des améliorations qui doivent être faites et des questions importantes qui se posent sur le contenu numérique. Il doit y avoir des exceptions pour les bibliothèques. On doit nous permettre de conserver, de protéger notre patrimoine historique et ensuite le juste équilibre dans le domaine commercial est aussi très important. Cette bibliothèque, en tant que telle, est un fournisseur de services Internet et nous nous préoccupons des répercussions de des lois sur le contenu numérique et les répercussions pour les écoles et les bibliothèques. Nous pensons que les bibliothèques ont un rôle de plus en plus important pour la dissémination du contenu numérique aux usagers. Nous venons de signer une entente de 11 millions de dollars pour acheter des ouvrages sur les sciences humaines et sociales. Et nous avons également une entente avec l'Association des éditeurs de façon à ce que certains livres soient disponibles en ligne dans les bibliothèques. Les bibliothèques auront un rôle plus important à jouer. Nous sommes un générateur de revenus pour les créateurs canadiens et nous voulons continuer de travailler pour trouver des solutions équitables aux défis que nous devons relever. Des choses comme Google Print, cela suscite des préoccupations. Qu'est-ce que cela voudra dire? Comment cela influencera-t-il la capacité de concurrentielle du Canada? Est-ce que les bibliothèques américaines auront droit à certains documents internationaux alors que le Canada n'en aura pas? Tout cela, ce sont des défis. Peut-être que le gouvernement ne peut pas trouver des solutions à tout, mais nous devons être bien informés. Nous respectons les créateurs de contenu, les fournisseurs. Nous dénonçons la piraterie, les faux, mais nous sommes tout à fait disposés à travailler avec vous pour trouver une approche équilibrée. Daniel Parr, Association des logiciels du Canada. Merci beaucoup d'avoir organisé ces consultations. Nous sommes très heureux d'être à la table. Nous avons bien noté vos commentaires ce matin au forum numérique parce que vous avez parlé du contenu. Donc, j'ai été très encouragée d'entendre vos commentaires. Donc, nous sommes ici à Vancouver. Nous sommes la plaque tournante du développement des logiciels au Canada. Le Canada est le troisième plus grand producteur des jeux vidéo au monde. Nous avons beaucoup de succès. Nous sommes derrière les États-Unis et le Japon, et toute proportion gardée compte tenu de notre population, c'est très impressionnant. Au Canada, quand les ventes de logiciels étaient de 2,2 milliards de dollars, c'est un record, et ça ne cesse d'augmenter. Notre industrie a un vaste potentiel pour l'économie canadienne et je pense que c'est très important que nous y réfléchissions et que vous y réfléchissiez lorsque vous rédigez des lois qui portent sur la protection des droits d'auteur. On peut également dire, écoutez, ça fonctionne tellement bien pour vous, pourquoi devons-nous nous préoccuper? Mais lorsque vous considérez la piraterie, entre 2007 et 2008, il y a eu une augmentation de 300% du piratage. Les jeux vidéo... Enfin, nous n'avons peut-être pas été autant affectés que les films, etc., parce que la taille de nos dossiers est incroyable. Mais avec la bande large, l'avènement de la bande large, cela sera de plus en plus facile de télécharger en ligne. Donc, il faut prendre des mesures de façon à empêcher que notre industrie soit minée par cela. Quant au projet de loi C-61, nous étions heureux de certaines des dispositions de notre point de vue. Nous vendons de la propriété intellectuelle. Nous ne vendons pas de t-shirts, quoi que ce soit. Nous vendons la propriété intellectuelle. C'est l'épine dorsale de notre industrie. C'est la clé de notre réussite. Donc, il faut prévoir de la protection pour certains blocs numériques. Nous pensons que le projet de loi C-61 était adéquat à ce niveau-là. En contrepartie, toute la question des avis, nous ne pensons pas que cela aille assez loin. Avec la vente des vidéos, par exemple, vous avez par exemple Halo 2. Lorsqu'il a été lancé, la grande majorité des ventes se font pendant les deux premières semaines. 80 à 90% des ventes se font lorsque le jeu sort sur le marché. Lorsque le jeu devient disponible en ligne, il y a déjà beaucoup de tort qui peut se faire du point de vue des ventes. Et cela s'applique aux détaillants canadiens et aux détenteurs de droits. Voilà pourquoi nous pensons que c'est important d'assurer la protection. Parce que le temps de trouver, d'obtenir une injonction pour enlever le contenu indésirable, ça prend trop de temps. Donc, nous pensons qu'il faut vraiment assurer la protection des producteurs de jeux vidéo au Canada. Le Canada, lorsqu'il s'agit du piratage des jeux vidéo, on arrive à un niveau disproportionné. Nous avons fait un petit sondage. 17% des consommateurs ou des joueurs américains détiennent des jeux, alors que 30 à 40% des Canadiens. Donc, c'est quasiment le double du piratage qui s'effectue au Canada par rapport aux États-Unis. Le moment est venu d'agir. Donc, tous les mécanismes d'évitement et les avis donc sont importants. Les détenteurs de droits doivent décider, le marché doit décider s'il pense que ces mesures ne sont pas justes. Eh bien, les consommateurs doivent décider. Il faut quand même offrir une protection dans la loi pour des façons d'interdire l'accès, de permettre aux consommateurs de décider. Pour les jeux vidéo, et je sais que je parle longtemps, nous utilisons les TBM pas seulement pour éviter le piratage, mais pour offrir davantage de choix aux consommateurs. Les sources comme Steam, par exemple, qui vous permettent d'avoir un abonnement à un jeu vidéo. Vous pouvez utiliser un ordinateur lorsque vous êtes en voyage ou chez vous plutôt que simplement avoir accès au jeu lorsque vous l'avez téléchargé. Ensuite, lorsqu'il s'agit de contrôle parental, si vous voulez limiter le choix des jeux pour vos enfants, ou si vous voulez limiter le temps que vos enfants passent à jouer à l'ordinateur, les parents devraient pouvoir le faire. Ensuite, il y a la possibilité de permettre aux consommateurs d'essayer un jeu avant de l'acheter, d'avoir accès à une partie, etc. Donc, je pense que ce serait des mécanismes utiles et positifs. Je suis de l'Université de Colombie-Britannique, Miriam Sanders. Je suis experte en réforme en matière de droit d'auteur. J'ai eu l'honneur d'être conseillère auprès de plusieurs gouvernements là-dessus. Et je suis ici, je suis une spécialiste des droits d'auteur et je suis défenseur des droits du public et des auteurs. Et dans ma famille, mon arrière-grand-père était le poète national en Inde. Et sa situation en matière de droits d'auteur était tout à fait différente parce que le gouvernement de l'Inde a eu des façons très innovatrices de travailler dans ce domaine. Eh bien, contrairement aux commentaires qui ont déjà été émis, j'aimerais faire quelques observations de nature générale qui pourraient être utiles au débat. Permettez-moi de le faire en disant qu'il y a deux mots clés qui définissent l'approche canadienne à la réforme du droit d'auteur. Clarté et équilibre. Et on a déjà parlé d'équilibre, mes prédécesseurs l'ont fait. La clarté, les Canadiens doivent être conscients de leurs droits et de leurs devoirs lorsqu'il s'agit de droits d'auteur et de médias numériques. Et c'est l'un des problèmes que j'ai eu avec le projet de loi C-61, parce que même les porte-parole du gouvernement qui ont pris la parole dans les médias ne semblaient pas bien comprendre le contenu du projet de loi. À de nombreuses reprises, des commentaires, les porte-parole du gouvernement ont émis des commentaires différents de ce que l'on pouvait lire dans le projet de loi. Le gouvernement doit avoir une idée claire de ce qu'il entend faire et doit bien communiquer son message au public canadien de façon à ce que les Canadiens et Canadiennes soient au courant de leurs droits. Au sujet de la clarté, quand on parle de clarté, pas seulement de clarté au sujet des droits, mais au sujet des politiques, nous devons savoir pourquoi nos droits, nos obligations sont tels qu'ils sont. C'est essentiel pour maintenir la crédibilité du fondement des droits d'auteur ici au Canada et ailleurs dans le monde. Il faut que monsieur, madame, tout le monde comprenne le pourquoi des lois sur les droits d'auteur, surtout dans les médias. Tout d'abord, ce que j'aimerais proposer en tant que spécialiste de la réforme du droit, c'est que la loi canadienne sur les droits d'auteur doit être simplifiée, si l'on veut. Il y a beaucoup d'éléments dans la loi qui se sont accumulés au fil des ans, et c'est très difficile à comprendre, même pour les spécialistes juridiques comme je le suis. Donc, il faut que la loi soit clarifiée, précisée, il faut inclure des dispositions sur des sujets connexes dans le même chapitre, par exemple. Et j'aimerais souligner l'importance de cela aux juristes qui vont rédiger la loi. Ensuite, il faut que nous nous conformions à nos obligations internationales. Plus particulièrement, le Canada a signé un traité sur l'Internet de la WIPO et il y a de nombreuses dispositions mais qui n'ont pas encore été intégrées dans nos lois nationales. Et cela a entraîné des litiges au niveau international. Mais les traités internationaux de la WIPO sur l'Internet doivent être bien comprises par le gouvernement Canada. Quelle est la marge de manœuvre qui nous est laissée dans la mise en œuvre de ces dispositions? Et qu'est-ce que cela peut vouloir dire du point de vue de la souveraineté canadienne en matière de droits d'auteur et de politique culturelle? Eh bien, il faut réfléchir à la question, trouver des réponses. Et encore une fois, nous devons tenir compte de la crédibilité et du bien fondé des solutions législatives que vous allez choisir. Ensuite, pour l'équilibre, que voulons-nous dire lorsque nous parlons de l'équilibre? On en a longuement débattu au Canada. On se dit que l'intérêt public est souvent à l'avant-plan. Bien sûr qu'il faut que cela soit pris en compte dans la réforme de la loi. J'ajouterais qu'il faut être conscient des droits des auteurs, des artistes, ceux qui fournissent ce dont nous avons besoin pour que notre technologie fonctionne. Donc, un juste équilibre doit protéger les droits des consommateurs et des auteurs et des artistes. Ce faisant, ne perdons pas de vue qu'il y a une espèce de cycle de la connaissance. À un moment donné, nous nous trouvons à des endroits différents dans ce cycle. À un moment donné, nous sommes des consommateurs et parfois, à d'autres moments, nous sommes les créateurs. Donc, ne perdons pas cela de vue. Tout le monde a intérêt à ce que la créativité soit protégée. Ça n'est pas un intérêt particulier. Cela fait partie des intérêts des Canadiens et Canadiennes en général. Et j'espère que le gouvernement prendra au sérieux les droits moraux des artistes et des créateurs, ce qui a souvent été négligé dans la réforme des droits d'auteur au Canada et partout dans le monde. C'est une question essentielle. Quelle est l'importance de l'attribution de l'intégrité dans un environnement électronique? Il faut être futuriste un peu, penser à ce qui se passera dans 20-30 ans. La vérité historique, je pense que ce seront des questions clés pour le 21e siècle. Donc, si par exemple nous avons une œuvre qui est modifiée pour être envoyée sur Internet par un média électronique, cette œuvre peut être manipulée. Donc, des extraits peuvent en être tirés, des parties peuvent être changées, des données historiques et les médias électroniques peuvent être utilisés pour effectuer ces manipulations sans que personne ne s'en rende compte. Évidemment, c'est peut-être un processus créatif, mais il faut aussi protéger l'intégrité des œuvres. Là aussi, il faut assurer un juste équilibre entre la protection des droits des créateurs et permettre une certaine liberté de façon à pouvoir modifier les œuvres existantes. Richard Rosenberg, président de la liberté d'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels de la Colombie-Britannique. Je suis professeur émérite à l'Université de Colombie-Britannique dans la faculté d'informatique. Évidemment, les organismes que je représente et moi-même, nous nous préoccupons de certaines questions, notamment de la vie privée, de la protection des renseignements personnels. À l'heure actuelle, les droits d'auteur, nous avons nous devons répondre aux inquiétudes de certains organismes et entreprises qui se préoccupent de l'atteinte à la vie privée et à la perte de revenus. Les ISP, nous voulons qu'elles aient certaines responsabilités. Nous ne voulons pas que ces organismes enfreignent le droit à la vie privée de leurs clients. Et quand on regarde la loi américaine sur les droits d'auteur, eh bien, il y a une responsabilité limitée des ISP. Je ne suis peut-être pas un grand défenseur de cette loi, mais elle peut nous servir de base. Elle peut être utile. Et je pense que chez nous, notre loi doit respecter les ISP, le travail qu'ils font et leur responsabilité vis-à-vis de leur clientèle. Donc, ce sont tous les fournisseurs de services électroniques. Donc, le projet de loi C-61 a été critiqué. Donc, nous sommes en faveur de la consultation, même si nous n'en avons eu vent que 2 ou 3 jours avant le début. Mais c'est peut-être une situation particulière dans notre cas. Ensuite, au sujet de la vie privée, quand on parle de l'utilité de la loi, il y a l'ACTA. Le Canada participe à des initiatives, à des ententes commerciales contre la contrefaçon. Et évidemment, j'ai dit que j'étais en faveur de l'ouverture à la participation du public, mais le Canada, les États-Unis et d'autres pays, on travaille déjà ensemble pour en arriver à des ententes commerciales en matière de propriété intellectuelle. Il faut être très prudent que les choses se fassent en secret. Nous devons élaborer une loi qui satisfasse aux besoins. Donc, faisons attention. Un autre élément que j'aimerais soulever, des avocats qui travaillent avec nous, avec un des organismes, notamment un organisme sur l'accès à l'information, nous préoccupons que le Canada continue de se fonder sur les droits d'auteur de la couronne. Le gouvernement, lorsqu'il a produit quelque chose, eh bien ça, c'est accessible. Ça n'est pas nécessaire d'élaborer une façon qui dicte la façon d'utiliser ce matériel. Pourquoi le gouvernement n'élimine-t-il pas les droits d'auteur de la couronne, si vous voulez? Ça n'existe pas aux États-Unis. Lorsque des documents sont produits par le gouvernement, ils sont distribués largement sur Internet. Les gens y ont accès, nous devrions les imiter. Et je ne dis pas que le modèle américain est parfait, mais dans certains domaines, il peut nous servir d'inspiration. Ensuite, il y a l'utilisation traditionnelle de l'utilisation équitable, si vous voulez. Moi, les auteurs, j'ai souvent communiqué avec des entreprises pour demander est-ce que je peux utiliser ces deux phrases, cette phrase. Et personne ne m'a jamais dit, écoutez, est-ce que vous pouvez utiliser 3 phrases, 4 phrases ou X% d'un article sans demander la permission. Compte tenu de la facilité avec laquelle on peut utiliser ces extraits, mais je pense qu'il faut que les gens soient au courant et que ce soit beaucoup plus facile que maintenant, et que les restrictions soient limitées, parce que je pense que la question de la perte de revenus des auteurs, si on les cite trop largement, je ne pense pas que ce soit vraiment un problème, parce que lorsqu'on utilise une citation d'un auteur, eh bien, ça peut faire en sorte que les gens s'intéressent à cet auteur et veuillent lire ses œuvres de façon plus complète. Donc, au fil des ans, les activités de l'association de la de la musique et du film aux États-Unis, on en a beaucoup parlé. La facilité avec les gens peuvent reproduire des chansons, des œuvres, etc. Il y a quelqu'un qui a eu une amende $1,5 million parce qu'elle avait fait des copies. Je sais que vous voulez protéger les auteurs, les artistes, mais je ne pense pas que la meilleure façon, ce soit d'intenter des poursuites contre quelqu'un et obliger cette personne à payer $1,5 million. Mais il faut simplement que les gens soient mis au fait de l'importance du copyright pour créer un bon climat de production dans le domaine des arts. Il faut, ça n'est pas nécessaire d'imposer des limites et des restrictions énorme à l'industrie des fournisseurs de services Internet. Nina Metter. Je suis présidente du comité des droits d'auteur de l'Association des bibliothèques de la Colombie-Britannique. Mais au départ, je suis ici à titre de bibliothécaire. Les bibliothécaires et les bibliothèques s'expriment au nom de tous leurs utilisateurs, des millions d'étudiants, d'enseignants, d'intellectuels, du public, des gens handicapés, des gens d'affaires, des utilisateurs spéciaux et de tous les utilisateurs, des plus jeunes aux plus vieux. Notre association représente les intérêts de centaines de milliers de tels utilisateurs qui sont desservis par du personnel des bibliothèques dans plus de 270 bibliothèques en tout genre dans les petites et grandes villes de notre province. Chaque année, les bibliothèques publiques et universitaires dépensent plus de 72 millions de dollars pour acheter du contenu. Et je n'inclus pas là-dedans les licences. Nos bibliothèques sont un marché énorme et constant pour les producteurs de contenu, que ce soit les éditeurs de livres, de revues, de producteurs de documentaires, de journaux, etc. Donc, l'association est affiliée avec l'Association canadienne des bibliothèques qui représente des milliers de bibliothèques partout au Canada. Nous nous réunissons pour discuter de plusieurs questions. Nous pensons qu'il n'y a pas de question plus importante que les droits d'auteur parce que les bibliothèques à l'heure actuelle donnent un accès total au contenu. Il faut encourager la créativité, l'innovation, et dans une société de la connaissance, et nous sensibilisons exactement, nous aidons les gens à avoir accès à des technologies, de nouvelles technologies. Donc, je pense que l'occasion est unique de préparer un projet de loi qui assurera un juste équilibre entre les détenteurs de droits d'auteur et les utilisateurs de matériel assujetti aux droits d'auteur. Et nous avons donc des objectifs économiques qui doivent favoriser la recherche, le développement, la créativité et une augmentation de la productivité qui est absolument essentielle si nous voulons que le Canada soit compétitif dans la situation économique difficile que nous traversons aujourd'hui. C'est très important de s'attarder aux questions importantes qui ont été soulevées dans les tentatives précédentes d'en arriver à une bonne loi sur les droits d'auteur. Permettez-moi d'en identifier quelques-unes qui, à notre avis, sont importantes. Tout d'abord, la gestion des droits numériques, de la protection, les mesures de protection pour les médias électroniques. Nous pensons que toute mesure visant à interdire et éviter les dimensions des RM et CRM, cela nie au nous pensons que cela empêche les gens d'utiliser les TPM pour des raisons valables et pour copier des éléments pour lesquels les droits d'auteur sont périmés. Et je pense que cela est discriminatoire face à certains Canadiens. Donc, si ça devient contre la loi d'éviter et de ne pas s'appliquer cela, eh bien, je pense que cela n'est pas une bonne idée. Il faut s'inspirer de ce qui se fait au Danemark. Ensuite, il y a les lois contractuelles qui ont préséance sur la loi. Nous pensons que ce ne serait pas acceptable, ce ne serait pas sage que toute nouvelle loi enchasse le principe selon lequel les contrats ont préséance sur les droits des utilisateurs déjà offerts conformément à la loi sur les droits d'auteur. Cela ne protégerait pas les utilisateurs et les institutions de mesures contractuelles qui iraient au-delà de leurs droits garantis par la loi. Cela irait à l'encontre des intérêts du public et minerait la portée et le poids de la loi et l'application de la loi. Ensuite, il y a toute la documentation qui est accessible aux personnes handicapées visuellement. Toute modification à la loi sur les droits d'auteur doit prévoir des dispositions qui accroissent l'accès. Donc, les TPM et les DRM doivent pouvoir être enlevés si l'on veut pouvoir offrir du matériel dans des formats différents et accessibles aux personnes handicapées. Il faut aussi que le libellé soit neutre du point de vue des médias utilisés, de façon à ce que tous les formats puissent être utilisés et puissent être prêtés d'un pays à l'autre, accessibles malgré les frontières. Ensuite, il y a toute la question des préjudices. Les utilisateurs de bonne foi, eh bien, s'ils sont protégés par des droits d'auteur, je pense qu'on ne doit. Il y a ensuite la disposition 504 de la loi américaine sur les droits d'auteur. Cette protection doit être offerte aux utilisateurs ainsi qu'aux bibliothèques, aux écoles, aux universités et à leurs employés. Ensuite, il y a toutes les exceptions pour les bibliothèques lorsqu'il s'agit de recherche et d'études personnelles. Un commentaire inaudible est fait par une personne que l'interprète malheureusement n'entend pas. Il s'agit d'infractions aux dispositions statutaires. Réponse. À l'heure actuelle, à cause de ces préjudices, on n'a pas à démontrer qu'il y a eu un préjudice. Donc, il faut qu'il y ait un dommage. La personne demandait une précision. Donc, le cas CCH contre Upper Canada donne aux bibliothèques la possibilité d'offrir des copies électroniques à leurs utilisateurs lorsqu'il s'agit de recherches et d'études personnelles. Donc, les principes de cette décision, les exceptions pour les bibliothèques, les archives et les institutions de savoir doivent continuer d'exister doit être élargi de façon à ce que ces institutions puissent offrir à leurs utilisateurs l'accès à la documentation. Parce qu'il s'agit d'une utilisation juste et équitable de la documentation. Ensuite, il y a toute la question des prêts interbibliothèques. Donc, si l'on interdit les prêts interbibliothèques, je pense que cela va à l'encontre de décisions qui ont été prises et qui permettent un bon accès à la documentation dans cette ère de l'électronique. Du point de vue personnel, moi, je suis bibliothécaire du droit d'auteur, si vous voulez, et donc tous les jours, je traite d'une facette ou l'autre des droits d'auteur, que ce soit dans les médias écrits ou électroniques. Il y a des professeurs qui tenaient absolument à inclure certains ouvrages dans leurs cours, mais ne pouvaient pas le faire parce que les lois sur les droits d'auteur leur interdisent d'utiliser cette documentation. Et des étudiants parfois viennent à la bibliothèque et éclatent en sanglots parce qu'ils ne peuvent pas utiliser tel ou tel extrait d'un vidéo ou telle citation d'un livre parce que la loi sur les droits d'auteur l'interdit. Donc, il y a des formateurs, des étudiants, des professeurs qui essaient de trouver des façons d'utiliser de la documentation sans enfreindre la loi. Et c'est parfois très difficile. J'ai passé des heures et des heures à essayer vainement d'obtenir la permission d'utiliser du matériel qui aurait dû être accessible. Lorsqu'il s'agit d'une utilisation équitable. Donc, sur le terrain, la situation devient impossible. Nous avons besoin de changements et c'est urgent. Et pour conclure, permettez-moi d'ajouter que ce qui est de plus important, c'est, peu importe le libellé de la nouvelle loi, j'insiste pour que ce soit neutre du point de vue du format, du médium, parce qu'on ne peut pas se limiter à des méthodes ou à des médiums. Je suis Elizabeth Rains, présidente de l'Association des éditeurs de revues de la Colombie-Britannique, des périodiques, 90 éditeurs en Colombie-Britannique. C'est puisqu'il y a à peu près 150 à 200 éditeurs de périodiques au Canada. Il y en a des centaines au Canada. Nous sommes une industrie culturelle importante et compte tenu du produit que nous offrons, eh bien, nous sommes à la fois des producteurs de contenu, nous appuyons nos créateurs, mais nous avons également du contenu qui doit être protégé. Donc, j'ai bien apprécié entendre parler de clarté et d'équilibre. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Les revues veulent protéger nos créateurs, nos compilateurs. Je pense que ceci est essentiel pour la compréhension de notre culture au Canada, l'accès démocratique à la culture. En tant que pays, nous avons besoin d'avoir accès aux œuvres qui sont créées ici de façon juste et équitable, sans devoir être inquiété. J'ai entendu parler de cette poursuite de 1,5 million de dollars et il y a également une poursuite aux États-Unis contre un jeune homme, un adolescent au début de la vingtaine, qui est poursuivi pour plusieurs centaines de milliers de dollars pour infraction au copyright pour de la musique. Donc, personne ne veut d'une loi qui sera une véritable farce, évidemment, qui ne sera pas prise au sérieux, surtout par les jeunes qui écoutent la musique, qui font comme tous leurs copains. Nous avons besoin d'une loi fondée sur un fondement sûr. En tant qu'éditeur de périodique, eh bien, en général, ces gens sont très rigoureux du point de vue de leur contenu et de la protection des droits d'auteur de leurs collaborateurs. Nous embauchons des écrivains freelance, des gens qui vont chercher d'autres contenus, des images, etc. Et il arrive qu'il y ait eu des enfreintes accidentelle du droit d'auteur. Donc, évidemment, il faut pouvoir donner un avertissement et peut-être prévenir les nouveaux venus dans le domaine qui n'ont pas beaucoup d'expérience de façon à ce qu'ils ne soient pas l'objet de poursuites sérieuses qui impliquerait la personne elle-même et aussi l'entreprise, etc. Donc, c'est une préoccupation. D'autre part, les revues, les périodiques, de plus en plus s'informatisent, sont offerts électroniquement. C'est une petite partie de notre auditoire, de nos abonnés, mais cela augmente. Il y en a qui font l'expérience du format électronique. Quant aux imprimés, parfois les revues offrent des DVD qui accompagnent le document écrit et donc il y a un élément vidéo et audio. Donc c'est un problème et une des raisons pour lesquelles on se préoccupe des droits d'auteur, c'est qu'il y a maintenant de nouvelles façons de diffuser un contenu. Il faut donc bien définir les choses, mais il nous faut une certaine marge de manœuvre de façon à ce que nous puissions à l'avenir utiliser de nouvelles formules, de nouvelles technologies, car on sait que la technologie s'améliore, évolue sans cesse. Il y a de nouvelles idées qui voient le jour à un rythme effréné. Nous appuyons les droits d'utiliser nos revues pour de la recherche. Nous appuyons ce que les bibliothèques font dans le domaine de l'éducation. Nous créons un produit qui est offert qui est sur les tablettes maintenant, qui offre de l'information sur ce qui produit au quotidien, mais ces périodiques restent pendant un certain temps dans les bibliothèques et nous pensons que les gens doivent avoir accès au contenu de ces périodiques. C'est très important pour l'éducation. L'éducation est très importante pour notre société. D'autre part, notre contenu est une création et nous ne voudrions pas qu'il soit utilisé à mauvais escient, qu'il soit utilisé sans notre permission. Donc, voilà pourquoi un juste équilibre est essentiel de façon à ce que l'on tienne compte des deux côtés de la médaille. Je suis d'accord avec ce que la société de la liberté d'accès à l'information, qu'il ne devrait pas y avoir de droit d'auteur de la couronne. Je pense que nous élisons notre gouvernement. Notre gouvernement est là pour nous servir et un employé n'aurait pas un droit d'auteur que leur patron ne pourrait pas utiliser. Donc, étant donné que le gouvernement est à notre service, pouvez-vous m'expliquer de quoi il s'agit? Le gouvernement a un droit d'auteur sur la documentation qu'il produit. Est-ce que cela occasionne des problèmes? Je ne suis pas au courant du dossier. Demande Monsieur le ministre, croit l'interprète. Réponse. Eh bien, si on utilise, par exemple, de la documentation gouvernementale pour rédiger un article dans une revue, et ça peut être la même chose pour un livre, si on utilise, par exemple, un document de la Couronne ou un document du gouvernement de façon importante. Question. Est-ce que le gouvernement a déjà intenté des poursuites lorsque cela se produit? Réponse. Eh bien, je ne pense pas, mais il y a des barrières, il y a des obstacles. Lorsqu'on veut utiliser une telle documentation, il faut en demander la permission. Et si on a besoin de cette documentation rapidement, eh bien, c'est un obstacle dont nous n'avons pas besoin au Canada. Il n'a pas sa raison d'être. Ça ne devrait pas exister. Donc, l'équité, l'équilibre, la définition précise de ce que nous voulons faire, mais en prévoyant une certaine marge de manœuvre. Et je pense qu'à ce moment-là, les éditeurs de périodiques seraient très heureux si cela devait se réaliser. Avant de passer à l'autre côté de la table, je vous rappelle que notre temps est limité si l'on veut réserver du temps pour une discussion. Donc, peut-être avez-vous voulu présenter vos arguments sans vraiment être bref. Donc, essayons de mieux gérer notre temps. Je ne devrais peut-être pas interrompre les participants. Lisa Codd de l'Association des musées de Colombie-Britannique. Ce qui nous préoccupe ressemble étroitement à ce que mes collègues ont déjà décrit, mes collègues des bibliothèques. Donc, si j'étais intervenue après Nina, j'aurais simplement dit bis, c'est exactement ce que je voulais. Je pense qu'il faut donner accès aux utilisateurs et prévoir un droit d'accès à ceux qui veulent faire des études, des analyses privées, et c'est utile pour les bibliothèques, les archives, etc. Et ce qui nous préoccupe en particulier, ce sont les photos. Je pense que je vais consacrer une petite minute à vous parler, à vous dire quelques mots au sujet du problème pour les musées. Elisabeth, tout à l'heure, a parlé de l'après-vie, après la publication ou l'édition. Et nous protégeons, nous préservons les données historiques pour les Canadiens. Et nous apprécions beaucoup les efforts de Patrimoine Canada qui nous aident dans notre démarche, de façon à ce que cette information soit disponible en ligne. Donc, que les photos soient disponibles électroniquement, c'est très important pour nous, très important pour nos utilisateurs, nos usagers. Donc, si vous me permettez de faire un commentaire, eh bien, nous sommes préoccupés de limiter l'accès aux photos. D'après la loi existante, après 50 ans, les droits d'auteur des photos deviennent caducs. Donc, ça nous donne quand même une limite de temps. Donc, à ce moment-là, après les 50 ans, les photos qui restent, qui existent toujours, peuvent être placées en ligne. Donc, c'est la même chose pour les écrivains, pour les auteurs. Il y a une période de temps de 50 ans de droit d'auteur. Donc, ceci veut dire que nous sommes limités dans ce que nous avons à offrir aux Canadiens. Donc, nous espérons que nous pourrons continuer à offrir des photos. Mais lorsque les photos parviennent au musée, dans 90% des cas, on ne sait même plus qui était le photographe. Donc, ce serait très important pour nous d'avoir que l'accès aux photos soit précisé dans la loi. Charles Laser, de la Guilde des écrivains du Canada. Nous sommes d'accord, nous appuyons Cette réforme de la loi sur les droits d'auteur par vos deux ministères, je pense que cette réforme tarde à venir. Nous aimerions que la nouvelle loi inclue l'utilisation la plus large du matériel par les consommateurs et nous voulons être indemnisés pour l'utilisation du matériel. Donc, voilà l'équilibre que doit assurer la nouvelle loi, les intérêts des consommateurs et les intérêts des créateurs. La nouvelle loi ne doit pas criminaliser certains comportements tout en limitant certaines utilisations commerciales. Comme d'autres l'ont dit avant moi, ça doit être clair. À l'heure actuelle, je ne pense pas que les consommateurs comprennent très bien que le transfert d'un format à l'autre, d'une émission de télé, par exemple, que cela n'est pas conforme à la loi sur les droits d'auteur. Il faut que cela devienne légal. Par contre, nous devons être indemnisés pour l'utilisation de nos œuvres. Il y a un programme qui existe déjà au Canada, un régime de copie privée qui permet de copier une partie de du matériel audio, par exemple. Vous pouvez enregistrer sur un CD, il y a un prélèvement, mais cela ne s'applique que à l'audio, à ce qui est audio, à la musique. Vous pouvez enregistrer une chanson, mais vous ne pouvez pas inclure la bande vidéo qui accompagne la chanson. Donc, je pense qu'il faut prévoir soit une harmonisation des régimes ou un régime unique qui couvre tous ces médias. Nous pensons que le gouvernement du Canada devrait ratifier les traités WIPO et il faut également que la loi porte sur la propriété des œuvres audiovisuelles, parce que les auteurs sont ceux qui sont indemnisés pour l'utilisation de ce matériel. Et la Guilde des auteurs, des écrivains, nous pensons que les écrivains et les responsables... Enfin, il faut que la loi précise qui sont les propriétaires de l'œuvre. Donc, une approche équilibrée. Nous voulons que nos ouvrages, nos œuvres soient utilisées le plus largement possible par les consommateurs dans les formats les plus nombreux possibles, mais nous voulons en contrepartie être indemnisés pour cette utilisation. Merci beaucoup, Bill Henderson, l'Association des paroliers du Canada. J'aimerais qu'en tant que créateur d'œuvres musicales, nous attendons depuis 10 ans qu'on fasse quelque chose au sujet de l'échange de dossiers. Et nous avons été témoins de plusieurs approches par d'autres pays, notamment les États-Unis, et nous avons constaté que les approches ne fonctionnent pas. La notion d'interdire le partage des dossiers, je ne sais pas qui a encore l'impression que ça peut se faire, parce que quand on considère ce qui se passe réellement, on voit très bien qu'on ne peut pas arrêter ce phénomène. C'est impossible, compte tenu de la nature même de l'Internet, d'après une étude que nous avons fait faire. Sur les aspects techniques de l'Internet, il faudrait formater l'Internet. Donc, quand on parle de droit d'auteur, eh bien, nous vivons des droits d'auteur. C'est très important pour nous, c'est essentiel. Ce n'est pas une question frivole. Nous pensons que le partage des dossiers est en fait une bonne chose. C'est un réseau de distribution absolument phénoménal. Il y a 90 millions de pistes qui sont accessibles. Il y en a entre 3 et 5 millions de ces chansons, de ces pièces qui sont disponibles sur iTunes et d'autres. 5 millions qui sont légitimes, accessibles, et 50 ou 70 millions qu'on ne peut pas accéder de façon officielle, légale. Et les gens veulent y avoir accès, partager avec leurs amis, échanger, etc. Mais nous disons merveilleux. Mais nous voulons permettre ces échanges tout en étant indemnisé. Mais je pense que toute tentative d'essayer d'interdire le partage des dossiers doit être reléguée aux oubliettes. Ça ne se fera pas, c'est impossible. Donc, essayons de trouver une façon que ce soit profitable pour nous d'en tirer parti. On a déjà un historique de ces échanges de dossiers partout dans le monde. C'est absolument, c'est un phénomène incroyable dans le domaine musical. Et quand des utilisateurs ont eu accès à telle ou telle pièce, ils sont prêts à la partager. Donc, le partage de dossiers, c'est une forme de comportement. Et il n'y a pas de frontière. C'est un comportement qui, à notre avis, est extraordinaire, tant et aussi longtemps que les gens ne l'utilisent pas pour faire de l'argent, qu'ils le font par amour de la musique. Donc, étant donné que c'est un phénomène comportemental, eh bien, je pense qu'il faut utiliser ces comportements de façon profitable. Ces gens ne sont pas des pirates. Il y a peut-être quelques personnes qui font du piratage à des fins lucratives, et ces personnes doivent être punies. La loi doit prévoir des mesures contre ces gens. Mais il faut également prévoir les TPM, les ARN, les protections, les mesures de protection technique. Eh bien là, les utilisateurs ne savent pas quoi en faire. Ces mesures vont-elles les empêcher d'acheter des produits? Et parfois, cela a entraîné des problèmes techniques. Donc, je pense, ça ne doit pas... les gens qui trouvent des moyens de contourner ces mécanismes ne doivent pas être criminalisés. Quant à la gestion des droits d'auteur, si on peut, par exemple, inclure le nom de l'auteur et l'éditeur, etc., des informations pertinentes qui pourraient être enchâssées dans des dossiers numériques musicaux, ça pourrait être une bonne initiative. On ne doit pas pouvoir détruire cette information. Il faut que cela soit indiqué. Ça n'empêche personne de profiter de la musique. Ça ne doit pas pouvoir être effacé. Nous avons travaillé à une proposition de partage de dossiers à l'Association des paroliers depuis 2 ans. C'est sur notre site web songwriters.ca. Vous pouvez aller nous consulter. C'est une proposition. Il y aurait différentes façons d'avoir un apport monétaire lorsqu'il y a un partage de dossiers. Et cela a occasionné un débat. C'est ce que nous souhaitions. Et nous avons, avec l'aide du gouvernement, nous aimerions trouver des façons de concrétiser cette proposition. Du point de vue de l'indemnisation, l'interprète s'excuse, mais ce commentaire ou cette question n'est malheureusement pas audible. Réponse. Sur notre site web, il y a une proposition. Il y aurait une licence pour l'utilisateur, la personne qui, en fait, dans le régime que nous avons prévu, une personne paierait chaque mois un certain montant pour l'échange de dossiers, le partage de dossiers, et ce serait au consommateur de décider. Ce serait un système fondé sur l'honneur, de bonne foi. Ce serait une somme mensuelle. Ça pourrait passer par les fournisseurs de services Internet qui feraient le contrôle. En fait, je sais qu'il y a toutes sortes de problèmes de largeur de bande, mais sur leur serveur, ils pourraient prévoir tous les dossiers qui sont les plus populaires pour des échanges. Donc, dans leur système, ils pourraient gérer ce phénomène plutôt que de le considéré comme un problème. Donc, ça pourrait être une bonne chose pour les fournisseurs de services Internet. Donc, peut-être la Commission des droits d'auteur pourrait-elle établir ça devrait être un tribunal indépendant, quasi-judiciaire. Et la Commission des droits d'auteur, Ce qui est merveilleux, c'est que ça donne à tout le monde l'occasion de défendre sa position. Si les utilisateurs pourraient dire, écoutez, nous pensons que c'est trop cher, ça devrait être tant, et les créateurs pourraient venir défendre leur position et voir ce qui se passe au sein de certaines associations comme la SOCAN et d'autres. Margot Patterson, Association canadienne des radiodiffuseurs. J'aimerais vous féliciter, messieurs les ministres, des efforts que vous avez faits pour organiser ces consultations. Et nous apprécions beaucoup, beaucoup d'avoir été invité à participer à cette consultation. Monsieur le ministre Clément, le mois dernier, à une conférence, vous avez dit que les secteurs des médias internationaux vont être à 2,3 millions de milliards d'ici quelques années, que les médias électroniques vont faire de plus en plus partie de nos vies et qu'il faut qu'on laisse de la place aux créateurs, aux gens qui ont de nouvelles idées. Le ministre Moore, en décembre dernier, à une conférence, vous avez dit que les consommateurs voulaient avoir accès à tout et que pour les radiodiffuseurs, traverser une période difficile, vous avez parlé de la distribution de contenu sur un éventail de plateformes. La radiodiffusion au Canada, c'est une industrie de 6 milliards de dollars qui dessert des collectivités partout au Canada. Les radiodiffuseurs s'adaptent et évoluent et malgré un contexte très difficile. Et il y a des stations de télévision qui se vendent pour un dollar. Il y a eu des pertes de ventes dans les valeurs. Les radiodiffuseurs veulent continuer d'être pertinents, d'exister. Ils veulent continuer de participer dans l'économie numérique. Et j'aimerais consacrer quelques instants à situer le contexte des droits d'auteur pour les radiodiffuseurs. Les radiodiffuseurs ont une perspective unique. Donc, ils sont les utilisateurs et les producteurs de matériel assujetti aux droits d'auteur. Donc, voilà pourquoi nous préoccupons de juste équilibre. Les propriétaires de droits d'auteur ils se trouvent dans le domaine de la radio, de la télévision. Les studios, les salles de nouvelles créent de nouvelles œuvres tous les jours et nous avons également la protection de nos signaux. Et en tant qu'utilisateurs des droits d'auteur, les radiodiffuseurs sont bien placés pour parler des questions de droits d'auteur dans une économie numérique. Nous créons une valeur ajoutée, nous faisons la promotion de la musique, nous générons des revenus qui ensuite donnent lieu à des droits d'auteur. La télévision, la radio créent une certaine conscientisation face aux œuvres protégées par les droits d'auteur. Les radiodiffuseurs sont essentiels pour le secteur de la culture au Canada. Nous sommes assujettis à des lois sur le commerce, etc. Et nous pensons que nous avons un rôle à jouer dans l'élaboration de la nouvelle loi sur les droits d'auteur. Permettez-moi de vous parler des préoccupations des radiodiffuseurs, parce que certainement aurons-nous la possibilité de nous exprimer un peu plus tard. Je vais rencontrer Gary McGarra à Calgary, dit le ministre. Réponse, oui, je sais que Gary sera là demain, donc il vous donnera davantage de détails. Deux préoccupations que les radiodiffuseurs ont exprimées. Les activités numériques, les radiodiffuseurs ont évolué comme toutes les autres industries technologiques au Canada, nous avons besoin de la protection de la loi sur les droits d'auteur puisque nous sommes parfois de nouveaux joueurs qui utilisons de nouvelles technologies. Ensuite, Gary vous parlera peut-être de la chose demain sur la question des mesures contractuelles et les radiodiffuseurs, évidemment, veulent pouvoir offrir du contenu en ligne. Donc, il s'agit parfois d'exemption aux droits d'auteur. Cela présente un obstacle. Il y a un radiodiffuseur dans l'Ouest qui a attendu des années avant d'offrir son signal en ligne parce qu'on ne savait pas combien ça allait coûter, quelle était la responsabilité Ensuite, il y a un radiodiffuseur du centre du Canada qui voulait lancer un site web qui offre, qui présente des artistes canadiens. Et dans les deux cas, dans le deuxième cas, l'initiative a été un échec parce qu'on n'a pas pu obtenir une exemption des droits d'auteur. Donc, en définitive, nous aimerions que le gouvernement tienne compte du marché, des répercussions des dispositions de la loi sur les marchés. Il faut absolument voir comment les nouvelles dispositions qui vont modifier les droits, en ajouter ou les enlever, auront des répercussions sur l'industrie. Ensuite, il faut que les gens comprennent que le tout soit logique pour l'avenir. Aucun cadre sur les droits d'auteur ne sera complet sans prévoir de mécanismes d'évaluation des paiements de droits d'auteur. Merci. Stephen Ellis, Association de production de films et de télévision canadienne. Nous représentons 400 petites entreprises, petites et moyennes entreprises au Canada qui créent des œuvres audiovisuelles. Et je pense pouvoir dire, sans me tromper, qu'il s'agit que le modèle d'affaires de ce groupe a été totalement bouleversé par le nouvel environnement numérique. Mais par contre, nous devons être à l'avant-scène, à l'avant-plan. Nous devons être des précurseurs dans ce domaine. Nous avons tiré profit de l'expérience du domaine musical, compte tenu de la capacité et la vitesse de téléchargement sur le web. Donc, les consommateurs, par contre, n'ont peut-être pas pu télécharger les œuvres de nos membres autant que des œuvres musicales. Donc, cela nous laisse un petit peu le temps de nous adapter. Quand on parle du WIPO, ça fait 10 ans, mais ces dispositions ont été rédigées au moment des cassettes vierges. Donc, ce n'était pas encore le moment de l'échange et du partage de dossiers et du transfert de dossiers. Donc, je pense que le moment est vraiment venu, le moment est opportun pour apporter une modification à la loi sur les droits d'auteur. Il ne faut pas se contenter de faire du rattrapage des normes de WIPO, mais nous devons être visionnaires et nous devons disposer de mesures qui vont faire du Canada un chef de file. Quand on parlait tout à l'heure des jeux vidéo, nous sommes une industrie de 5 milliards de dollars au Canada, 130 000 emplois directs et indirects. Nous avons produit l'année dernière 8 000 heures de télévision, 75 films, mais nous sommes des consommateurs de droits d'auteur aussi, comme d'autres l'ont dit, des œuvres littéraires, des œuvres musicales, des œuvres théâtrales. Lorsqu'on crée une œuvre audiovisuelle, une pièce de théâtre, etc., une exposition en ligne, nous utilisons tout ce matériel. Ce qui est intéressant, c'est que les producteurs indépendants et le gouvernement du Canada sont partenaires depuis 25 ans, tant dans le domaine culturel que économique, grâce à des mesures comme Téléphone Canada, le Fonds des médias du Canada, les mesures fiscales. Nous collaborons à de nombreuses initiatives visant notamment le contenu canadien, ce qui affecte bon nombre de nos membres. Évidemment, nous voulons faire des profits. Nous voulons que nos activités soient rentables. Et je ne pense pas que le gouvernement veuille que nos revenus soient minés. Mais quand vous avez parlé de clarté et d'équilibre, nous pensons que cet équilibre est fondé sur un principe très simple, le droit de donner, le droit de recevoir. Et même si vous deviez adopter les mesures les plus strictes, les plus sévères, cela n'empêcherait pas le créateur d'une œuvre d'offrir cette œuvre gratuitement. Donc, à l'inverse, nous sommes contraints de vivre dans un monde ou parce que quelqu'un veut offrir quelque chose gratuitement, ça ne doit pas être imposé à tous. Donc, nous sommes tout à fait disposés à élaborer un nouveau modèle d'affaires pour nous. Quant à des mesures précises, Il y en a une dont on parle peu, mais qui est absolument essentielle pour nous. Et peut-être pourriez-vous relier ça un peu à faire le ménage de la loi, comme Marielle l'a dit. Il faut définir le premier propriétaire d'une œuvre assujettie en droit d'auteur. Et Patrick en a parlé. Parfois, ça n'est pas clair. Qui est le premier détenteur des droits d'auteur? Il y a une ambiguïté qu'on devrait éliminer. Nous sommes en général d'accord avec les TPM. Les géofrontières, si vous voulez, les géobarrières sont importantes pour nous. Les licences doivent couvrir un certain territoire géographique. Quant aux avis, aux avertissements, eh bien, il y a parfois des éléments qui dérangent certains intervenants. Mais je pense, quant à la responsabilité des fournisseurs de services informatiques, nous aimons bien ce qui se passe en Nouvelle-Zélande, en Grande-Bretagne. La France est peut-être allée un peu trop loin. Les Européens semblent pencher envers un organisme qui assurerait un certain contrôle des échanges de dossiers pour éviter le piratage. Nous sommes d'accord avec les récentes décisions du CRTC sur l'Internet. Nous voulons toutefois permettre à nos membres d'avoir un plus grand accès aux consommateurs et peut-être un prélèvement auprès des fournisseurs de services Internet. Et nos cinéastes, nos documentaristes sont très intéressés à faire connaître leur travail, mais compte tenu des producteurs de fiction et autres, nous ne voudrions pas que l'accès gratuit à certaines œuvres ne porte pas préjudice et n'entraîne pas ne porte pas préjudice à des œuvres qui ne sont pas gratuites. Quant au projet de loi C-61, nous pensons qu'il y avait des éléments fort intéressants. Par contre, d'autres dispositions méritaient d'être retravaillées. Et voilà. Je vous remercie. Eh bien, c'est maintenant votre tour. Jeff Glass, Vancouver, Fair Copyright. Je suis élaborateur de logiciels. J'ai élaboré des logiciels qui sont utilisés dans des écoles partout dans le monde. Je suis étudiant au doctorat sur la collaboration en ligne. Qu'est-ce que c'est que les droits d'auteur justes et équitables? Nous ne sommes pas un groupe de lobbyistes. Nous sommes un groupe non officiel. Nous avons des dizaines de milliers de citoyens qui en font partie et qui nous préoccupons de l'orientation future des droits d'auteur. Quand je parle de citoyens ordinaires, monsieur, madame, tout le monde, nous avons parmi nos membres des entrepreneurs, des élaborateurs de logiciels, des bibliothécaires, des universitaires, des artistes. Et à une réunion, il y avait un artiste qui nous disait, écoutez, moi, les droits d'auteur, c'est mon gagne-pain. J'en ai besoin tous les jours. Mais je pense que les réformes sont menaçantes pour les artistes. Et il y a un artiste qui nous a dit que certains groupes d'artistes qui représentent les artistes nous laissent croire qu'il y a un consensus entre les artistes en matière de droits d'auteur, ce qui n'est pas le cas. Donc, pourquoi ne défendons-nous les propositions du projet de loi C-61 pour un renforcement des droits d'auteur? C'est que nous voulons empêcher l'atteinte aux droits d'auteur. Mais dans les pays où ça a été adopté, par exemple aux États-Unis, où il y a des mesures qui ont été mises en œuvre il y a 10 ans, on s'est rendu compte que ça ne marche pas. Et je pense qu'il y a tantôt mon collègue Parolier qui l'a démontré. Il n'y a qu'une façon d'empêcher que les gens enfreignent les droits d'auteur, il faut que les gens respectent la loi, obéissent à la loi. Ils doivent avoir l'impression que la loi est juste. Et quelqu'un m'a suggéré un parallèle avec les impôts. Si les impôts sont trop élevés, il y aura beaucoup d'évitement fiscal. Mais si nous voulons une loi sur les droits d'auteur qui soit respectée, il faut qu'elle soit perçue comme étant équitable. Et cela crée un problème, parce qu'il y a des lois partout dans le monde, des lois sur les droits d'auteur, même si la loi canadienne n'a pas changé depuis des décennies. Et au fur et à mesure que les lois s'élargissent, il y a de plus d'activités qui sont visées, du remixage, de nouvelles œuvres. Il y a beaucoup de ces activités deviennent illégales. Il y a beaucoup de vidéos amateurs sur YouTube qui sont sans doute illégales. Il n'y a pas, par exemple, d'exemption pour la parité au Canada. C'est un autre exemple. John Stewart's Daily ou le rapport Colbert pourraient être illégaux s'ils avaient été faits ici. Et si les droits d'auteur sont tellement vastes, tellement larges, que cela n'a rien à voir avec ce sur quoi les droits d'auteur devraient porter. Le ministre Clement a parlé de mécanique automobile et des DRM qui s'appliqueraient dans ce cas-là pour empêcher les ateliers illégaux de faire de la réparation. Donc, si les DRM veulent prévenir toutes sortes d'activités ou s'appliquer à toutes sortes d'activités qui n'ont rien à voir avec les droits d'auteur, voilà pourquoi certaines des mesures du C-61 étaient si dangereuses, parce que il y avait des dispositions qui s'appliquaient au mécanisme et non pas au contenu. Donc, une loi des droits d'auteur qui m'empêcherait de changer de fournisseur de cellulaire n'aurait aucun sens. Mais du point de vue des droits d'auteur, le grand problème, c'est que lorsque les gens pensent que la créativité devient illégale, ils vont perdre tout respect qu'ils ont pour la loi. Donc, je pense que la règle du droit, doit, si elle est exagérée, peut être nuisible. Donc, la créativité, ce qui a mené à la création de jazz aux États-Unis il y a des décennies, eh bien, est-ce que ce serait illégal aujourd'hui? Parce que cela enfreindrait la loi sur les droits d'auteur. Et la création du Mickey Mouse de Disney, s'il travaillait au Canada, si cela avait été fait au Canada aujourd'hui, eh bien, il n'y aurait sans doute pas de Mickey Mouse. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'au Canada, nous avons besoin d'une loi équitable, souple, de façon à ce que les Walt Disney du 21e siècle soient canadiens. Nous avons parlé de la responsabilité des fournisseurs de services Internet, et c'est très important qu'il faille prévoir une bonne application des mesures qui seront imposées. Daniel Parr, de l'Association des logiciels de loisirs, a dit que c'était absolument essentiel pour son industrie, ou pour les jeux, pardon. Les premières semaines sont essentielles. Et il y a des activités qui ont été utilisées par des gens qui n'étaient pas les détenteurs de copyright pour imposer une certaine censure. Et ça a été fait pendant la campagne présidentielle aux États-Unis. Il y a John McCain qui a retiré un vidéo en disant que cela enfreignait la loi sur les droits d'auteur. Et ça lui a pris quelques semaines, mais enfin, ensuite il l'a remis sur les ondes. Mais ça, c'est parce que c'était John McCain. Je ne sais pas si moi, je pourrais faire cela. Mais quand je dis « nous pensons », « nous croyons », eh bien, je reprends les propos des gens que je représente, enfin, sans que ce soit véritablement une représentation officielle. Mais je vous dirais que l'année dernière, ce qui a suscité des réactions négatives de la part de dizaines de milliers de gens, eh bien, ce sont les modifications du DRM. Nous ne sommes pas autorisés de modifier le WIPO, mais nous devons nous assurer que toute mesure d'exemption ne porte que sur l'infraction, l'atteinte aux droits d'auteur. Que dans les cas où il y a atteinte aux droits d'auteur, pardon. Quelqu'un, je pense, les paroliers, a dit qu'il fallait faire attention, que les activités que la plupart des Canadiens considèrent comme étant normales ou que faire partie de la vie ne deviennent pas des activités criminelles. Merci beaucoup. Et une Boyko de la Fédération canadienne des étudiants. Nous apprécions beaucoup que vous nous ayez invités à participer à la discussion. Nous avons été très actifs dans le dossier du copyright par le passé. Sur les campus, les étudiants sont très intéressés par ce dossier dans le domaine des sciences informatiques et dans tous les autres domaines. Comme d'autres l'ont dit avant moi, chez nous, nos membres sont à la fois des utilisateurs et des créateurs, et parfois des réutilisateurs ou des modificateurs. Toute création artistique ou intellectuelle est fondée sur des œuvres précédentes. Donc, tous les créateurs sont des utilisateurs. Et je pense que ça, c'est important d'en tenir compte lorsqu'on pense à une loi sur les droits d'auteur. Pour les étudiants, nous ne sommes pas forcément d'accord avec les exemptions. Évidemment, l'éducation a été prise en compte dans le processus de rédaction de la loi, mais c'est une approche défectueuse, si vous voulez. Est-ce que les juristes vont vraiment pouvoir prédire comment l'éducation va évoluer dans les décennies à venir? Quels seront les médias, les mécanismes, les équipements, les modes utilisés? C'est impossible de prévoir ce que l'avenir nous réserve. Comment devrions-nous définir les étudiants, l'éducation permanente, la bonification des connaissances? C'est très difficile. Donc, de ce point de vue-là, nous croyons qu'une meilleure approche serait d'avoir une approche à long terme sur la façon dont la loi sur les droits d'auteur va s'appliquer aux institutions éducatives. Il faut que les dispositions sur les exemptions offertes soient fondées sur une utilisation équitable. Dans la nouvelle loi, il faudra respecter l'esprit de la décision de la Cour suprême sur CIS et l'Upper Canada. Donc, je conclurai en disant que voilà notre point de vue. Et je peux me permettre d'être bref parce que je pense que nos membres seraient d'accord pour dire qu'il y a un documentaire canadien qui résume bien notre position. C'est le RIP Arenas Manifesto. C'est un documentaire produit à Montréal, a été diffusé partout dans le monde et je vous encourage fortement à le regarder si vous vous intéressez au dossier des droits d'auteur. Cela représente une façon à la fois amusante et intéressante de présenter ce qui se fait de plus nouveau. RIP, le Remix Manifesto de M. Gaylor. Cela a été financé, je crois, par l'Office national du film. C'est vraiment merveilleux, c'est excellent. Et ça parle de contenu canadien et je pense que nos membres, les étudiants, appuient fortement les idées exprimées dans ce film. Merci. Bon, je pense qu'il faudra que nous concluions. Je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi nos auditeurs en ligne. Il y a, je pense, 64 personnes qui font du Twitter. Donc, c'est toujours c'est que nous ne sommes pas encore arrivés à la même cote de participation que Paris Hilton, mais c'est quand même pas si mal. Donc, c'est une première tentative, une première initiative de ce genre. Comme vous avez pu le constater, nous avons pris de nombreuses notes. Nous avons des assistants aussi qui ont bien noté vos commentaires. Quant à moi, comme je le prévoyais, nous sommes tous très polis. Le Canada est une société très polie. J'ai pu constater qu'il n'y avait peut-être pas unanimité autour de la table, mais je pense que vous avez abordé à peu près toutes les grandes questions auxquelles nous sommes confrontés en tant que société. Je vous en remercie. Vous nous avez donné beaucoup de matière à réflexion et je m'attends à ce que nous abordions la
situation de plus en plus détaillée au fur et à mesure de nos consultations. C'est sûr que nous allons aller plus au fond des choses. Nous allons recevoir des mémoires écrites, des commentaires en ligne. Mais je pense que c'est déjà un bon début, un bon point de départ. Merci beaucoup. Copyright.ca, c'est notre site web que je vous invite à consulter. Nous avons ici des membres de notre équipe qui pourront vous donner toutes nos coordonnées pour que vous puissiez communiquer avec nous. Merci beaucoup.